VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter une édition spéciale élection américaine au lendemain du scrutin de mi-mandat. Les démocrates ont décroché la Chambre des représentants, les républicains conservent le Sénat. Le président américain Donald Trump a évoqué un grand jour et déclaré vouloir travailler avec les démocrates. Les 79 enfants enlevés au Cameroun ont été retrouvés et ramenés à Bamenda. 22 ans de prison requis contre l'opposante rwandaise Diane Rwigara. Et les Malgaches ont voté pour le premier tour de la présidentielle. Résultat des élections de mi-mandat ici aux États-Unis, les démocrates remportent la majorité à la Chambre des représentants tandis que les républicains renforcent leur contrôle du Sénat. Ce verdict annonce deux années à venir de durs combats politiques. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Le président Donald Trump, ce matin sur Twitter, s'est réjoui d'une très grande victoire. Les républicains ont renforcé leur emprise sur le Sénat. Les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants. La participation a été plus forte à 47% contre 37% en 2014. Les élections de mi-mandat sont souvent délicates pour le président en place. Comme pour Barack Obama et George Bush, dans son second mandat, le parti du président américain a perdu sa majorité à la chambre basse du Congrès. C'est une nouvelle donne pour Donald Trump. Dès le 3 janvier 2019, lors de l'entrée en fonction du prochain Congrès, le président américain devra transiger avec les démocrates pour faire adopter ses lois. Les démocrates ont promis d'employer leur nouvelle majorité à la chambre basse pour servir de contre-pouvoir. Nancy Pelosi, leader démocrate de la Chambre, a aussi promis d'œuvrer pour trouver des solutions qui nous rassemblent, car nous en avons tous assez des divisions.
Le président américain Donald Trump a déclaré espérer pouvoir travailler avec les démocrates à condition qu'ils renoncent à leur projet d'enquête sur sa présidence et ses finances. Abdourahmane Dia reprend les grandes lignes de cette conférence de presse post-électorale.
C'était un peu une séance d'explication des résultats et pourquoi les républicains ont perdu la Chambre, mais surtout il a minimisé les pertes en les comparant aux élections de mi-mandat du président Obama en 2010. Au niveau de la Chambre des représentants, il dit qu'en 2010, Obama avait perdu 63 sièges alors que lui n'en a perdu que 27. Le président Obama avait perdu 6 sénateurs alors que lui a renforcé le contrôle républicain au Sénat. Mais il reconnaît qu'il lui sera difficile de gouverner sans les démocrates. Donald Trump estime qu'il est bien possible de travailler avec Nancy Pelosi, qui pourrait reprendre son poste de présidente de la Chambre des représentants.
Elle a beaucoup de mérite. Elle a travaillé dur et pendant longtemps. Donc, je pense qu'elle a du mérite. J'espère qu'on pourra tous travailler ensemble pour continuer à faire des résultats pour le peuple américain, y compris dans l'économie, les infrastructures, le commerce, la baisse des médicaments. Ce sont des choses sur lesquelles les démocrates veulent travailler avec nous. Je pense qu'on peut le faire et nous avons beaucoup de raisons pour le faire.
Les démocrates de la Chambre pourraient demander que ces impôts soient rendus publics. Le président Trump se dit ouvert à cette possibilité une fois que l'autorité fiscale aura fini son audit sur ces sociétés. Et sur le mur qu'il veut ériger à la frontière mexicaine, il y tient toujours, mais reconnaît qu'il sera plus difficile de sécuriser les fonds nécessaires pour sa construction.
Il ne va pas sans dire que les Américains ont élu un Congrès divisé. Les républicains confortent leur assise au niveau du Sénat, mais se sont fait arracher 26 sièges à la Chambre, désormais dominée par les démocrates. Pour une analyse sur cette nouvelle configuration, Yacouba Ouedraogo a joint Jim Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
Normalement, le parti qui oppose le président gagne dans ces élections à peu près 28 ou 30 sièges dans la Chambre des représentants. Et c'est à peu près ce que les démocrates ont achevé hier. On ne sait pas exactement, mais c'est probablement entre 28 et 35 sièges. Donc ça jouait en faveur des démocrates. Aussi le fait qu'il y a une forte résistance contre le président, surtout dans les alentours des villes. Par contre, quand on parle des républicains, ils ont gagné beaucoup de sièges, 3, peut-être 4 dans le Sénat, ce qui est très important. Cela renverse la tendance historique en ce qui concerne le Sénat.
Quel avantage y a-t-il à contrôler le Sénat pour les républicains?
Alors, le Sénat est plus important dans le sens que le Sénat contrôle la nomination des positions aux États-Unis, par exemple, la position des juges. Donc, si le président Trump s'y nomme quelqu'un pour être un juge de la Cour suprême, ce sera le Sénat qui doit donner son accord.
Et pour les démocrates, qu'est-ce qu'ils gagnent en contrôlant la Chambre des représentants?
Alors, ils gagnent une chambre très importante. Il sera impossible de faire voter de législation sans l'accord de la Chambre des représentants. On peut dire que c'est un moyen d'arrêter le président. Il sera impossible d'avoir de législation que les démocrates ne veulent pas.
À quelle bataille faut-il s'attendre au Congrès avec un Sénat républicain et une Chambre des représentants démocrates?
Alors, il y aura des conflits entre les deux chambres, mais on va voir. C'est possible pour le président de négocier un peu avec les démocrates et de trouver des moyens d'avoir quelque part la législation. Le président, il peut changer un peu son cours. Il peut essayer de trouver des moyens de travailler avec les démocrates sur quelques questions.
Quel genre de moyens? Des concessions qu'il va demander aux démocrates?
Ce sera nécessaire pour les démocrates, pour les élections de 2020, de démontrer qu'il peut gouverner. Ça, c'est important pour eux. Il ne peut pas seulement dire « nous sommes contre ce que vous voulez ». Il doit au moins donner l'impression qu'il veut travailler avec le président.
Quel est l'impact sur les deux prochaines années pour Trump en tant que président?
Ce n'est pas tout à fait irrégulier. Obama l'a fait pendant 6 ans. Donc c'est difficile, mais c'est le système américain qui donne la possibilité d'avoir, si vous voulez, un gouvernement qui est divisé. L'idée, c'est qu'il faut apprendre de trouver les moyens de gouverner avec un gouvernement divisé.
C'était l'auteur et politologue américain James Caesar. Il était joint dans l'État de Virginie. À noter qu'une présence massive des femmes et des jeunes a été constatée dans de nombreux bureaux de vote à ces élections américaines de mi-mandat. Pour ce qui est des candidats, ce scrutin a révélé de nouvelles personnalités féminines et musulmanes comme Ilhan Omar et Rachida Tlaib. Et Kia Badou présente leur profil.
Ilhan Omar dans le Minnesota et Rachida Tlaib dans le Michigan sont devenues les premières femmes de confession musulmane à être élues à la Chambre des représentants. Les deux démocrates prônent une politique progressiste avec un meilleur accès à la santé et aux études. Ilhan Omar a commencé son discours de victoire avec un salam alaikum. L'américano-somalienne de 36 ans succède à Keith Ellison, le premier élu noir et musulman au Congrès. Elle a également parlé des immigrants qui venaient en Amérique en quête d'une vie meilleure et qui rencontrent trop souvent l'intolérance et la haine. Elle a fui la guerre en Somalie pour s'installer dans le Minnesota avec sa famille à l'âge de 17 ans. Par la suite, elle s'est engagée dans la vie locale et la défense des droits humains. Rachida Tlaib, 42 ans, a été élue dans une circonscription du Michigan où le Parti républicain n'avait pas investi de candidat. Née aux États-Unis de parents palestiniens, elle a dit sur une chaîne américaine « Je suis candidate à cause des injustices et parce que mes garçons s'interrogent sur leur identité de musulmans ». Ce sont deux visages qui vont s'installer désormais dans le paysage politique américain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Actualité en Afrique avec la libération au Cameroun de 79 otages, parmi lesquels 78 élèves et un chauffeur. Ils ont tous été présentés à la presse à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, où ils avaient été enlevés dans un établissement secondaire confessionnel en zone anglophone. Notre correspondant Emmanuel Juntap nous en dit plus.
L'armée camerounaise affirme... Avoir mené de bout en bout l'opération ayant abouti à la libération des 79 premiers otages, les preneurs d'otages ont été pris au piège après avoir été localisés sur renseignements et écoute des conversations téléphoniques, a précisé le colonel Didier Badiek, porte-parole du ministère de la Défense. Notre dispositif a retrouvé les otages à l'abandon à Bafout, localité située à 24 km de Bamenda, a mentionné le colonel Badiek dans une note d'information. Pour sa part, Samuel Fonki, modérateur de l'église presbytérienne camerounaise, tutelle du collège où l'enlèvement a été perpétré lundi dernier, a expliqué, je cite, « Nous avons retrouvé les otages dans la dépendance de l'église à Bafout après avoir obtempéré à la principale demande des ravisseurs. Ils nous ont demandé de fermer nos écoles. C'est ce que nous avons fait », a confié le révérend Samuel Fonki, le principal du collège. Un enseignant et deux élèves ne figurent pas parmi les otages libérés. Yaoundé, Emmanuel Jelouta.
Les électeurs malgaches ont voté ce mercredi pour le premier tour de la présidentielle. 36 candidats se sont présentés, dont 4 anciens présidents, parmi lesquels 3 sont donnés favoris. Nani Talani nous en dit plus.
D'après le ministre malgache de l'Intérieur, à la mi-journée, le taux de participation était de 40% dans la capitale Antananarivo et de 68% à Toliara, la troisième ville du pays. On espère que cette élection sera l'occasion de consolider les acquis démocratiques, a déclaré le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne, Christian Preda. Pour éviter tout dérapage, le président de la Haute Cour constitutionnelle, Jean-Éric Rakoto-Arissou, a exhorté les candidats à ne pas annoncer de résultats avant la Commission électorale nationale indépendante et à ne pas se déclarer vainqueur avant le résultat final. Les premiers résultats provisoires et très partiels sont attendus d'ici vendredi matin, mais la proclamation des résultats officiels est prévue le 28 novembre. Si aucun candidat ne l'emporte au premier tour, les deux premiers se retrouveront pour un second tour le 19 décembre.
Le parquet rwandais a requis 22 ans de prison contre Diane Rwigara, accusée d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents, des charges qu'elle conteste. Elle souhaitait participer à la présidentielle de 2017, mais sa candidature avait été invalidée par la commission électorale, arguant de signatures falsifiées dans son dossier. Le parquet a également demandé 22 ans de réclusion contre sa mère, Adeline Rwigara, pour incitation à l'insurrection et promotion du sectarisme. Sa sœur, également arrêtée, a été libérée auparavant, les charges pesant contre elle ayant été abandonnées. Une action alimentaire urgente est nécessaire pour 2 millions de personnes en Centrafrique, alerte le Programme alimentaire mondial, soulignant que les conditions nutritionnelles continuent de se détériorer en raison de l'insécurité persistante. Sur les 620 000 personnes déplacées, 60% vivent dans des familles d'accueil. Début novembre, une nouvelle vague de violence a eu lieu à Batangafo, Bambari et Zemio, obligeant des milliers de civils à fuir. Une cour de justice de Kaduna, dans le nord du Nigeria, a refusé d'accorder la libération sous caution du leader chiite Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis 2015. Chef de file du mouvement islamique du Nigeria, il est emprisonné avec son épouse pour homicide et rassemblement illégal. Et deux anciens ministres de Robert Mugabe, accusés de corruption, ont comparu devant deux tribunaux distincts à Harare. Il s'agit des ex-ministres de l'information Supa Mandi Wanzira et des collectivités locales Saviour Kasukuwer. Le premier est inculpé pour un montant de 5 millions de dollars, tandis que le second est accusé d'avoir illégalement revu le cadastre de terrain d'une valeur de 2 millions de dollars en faveur de la sœur de l'ancienne première dame, Grace Mugabe. D'autres anciens ministres ont été arrêtés dans le cadre de ce dossier anticorruption au Zimbabwe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité en Afrique. Le ministre de l'Intérieur du Niger, Mohamed Bazoum, a déclaré devant le Parlement avoir nettoyé des villages dans la région de Tillaberi qui subissent la présence de djihadistes. Cette région est la zone frontalière avec le Burkina Faso et le Mali, connaît une recrudescence d'attaques terroristes depuis plus d'un an. Pourquoi un tel regain de violence dans la zone ? Pour un élément de réponse, Bagassi Koura a joint à Niamey Moussa Aksar, qui est spécialiste du terrorisme dans le Sahel.
Cette zone, elle est la zone de prédilection du groupe de l'État islamique du Grand Sahara et de El-Sahraoui, qui veut contrôler toute cette bande parce qu'il a des groupes armés qui l'utilisent comme sous-traitant. La zone qui va de la frontière du Mali en passant par le Niger et le Burkina. Du fait aussi que ces populations ont un problème avec les États concernés parce que selon beaucoup d'enquêtes établies par des services compétents, l'État n'a pas pu à un certain moment protéger ces populations-là. C'est pour cela qu'elles ont embrassé l'État islamique du Grand Sahara.
Alors récemment, le gouvernement nigérien annonçait notamment une opération de nettoyage dans la région. Qu'est-ce que vous en savez?
À notre connaissance, le ministre de l'Intérieur, au cours d'une interpellation à l'Assemblée nationale, a dit qu'il y a eu un nettoyage le long de la frontière entre le Niger et le Burkina. Mais nous, selon, il n'a pas dit en réalité quel est le bilan, quelles sont les cibles qui ont été détruites par cette opération. Il a juste parlé de ratissage. Quand on sait que, quand on parle de ratissage, il y a toujours un bilan derrière. Et nous sommes un peu sceptiques par rapport à cette annonce du ministre de l'Intérieur du Niger.
Alors justement, après plusieurs mois d'activité intense terroriste dans cette zone, on ne sent pas vraiment la réaction des forces sur le terrain, les forces nationales, mais aussi il y a le G5 Sahel et aussi les forces françaises.
Écoutez, ça fait un bout de temps que Barkhane dit que l'État islamique dans cette bande-là a été anéanti, mais c'est tout le contraire qu'on est en train de voir sur le terrain. Il est plutôt actif, il est plutôt actif. Aujourd'hui, il se rapproche des grandes villes, il est non loin du parc du W, il y a des attaques par là. Il y a au niveau de la frontière avec le Niger, non loin à 200 km de Niamey, un peu partout, l'État islamique se rapproche des grandes villes.
Souvent, on a l'impression que les forces ne réagissent même pas à certaines de ces attaques, comme on l'a vu récemment à Djibo, au Burkina Faso.
C'est un problème inhérent à toutes les armées ouest africaines. On n'a pas posé le problème depuis qu'il y a eu des morts. Est-ce que ces armées-là se sont retrouvés sur la table pour dire pourquoi on a autant de morts, faire le diagnostic, pourquoi nos soldats abandonnent leur position sur le terrain, pourquoi. Donc on ne le fait pas et à chaque fois on se retrouve avec des djihadistes qui viennent en moto et qui repartent avec des véhicules munis des armes collectives comme les 12-7 ou les 14-5.
L'expert en terrorisme Moussa Aksar a été joint à Niamey au Niger.
Morgane Guiriac en votre compagnie. Cette semaine, dans Washington Forum, les élections de mi-mandat ici aux États-Unis. Les Américains ont notamment voté pour renouveler une partie du Congrès. 35 postes de sénateurs et l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants étaient en jeu. Il devait aussi élire les gouverneurs de 36 États. Quelles vont être les conséquences de ce vote? Quel va être l'impact sur la politique du président Trump? On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
Au Mali, environ 1600 combattants affiliés à la CMA, la plateforme et autres mouvements armés sont concernés pour le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Le processus d'intégration accélérée a été lancé mardi à Gao avec les combattants du MOC en présence des autorités maliennes, des responsables des différents mouvements armés et des Nations Unies. Notre correspondant Boubacar Touré était présent à cette cérémonie.
Le processus d'intégration accélérée qui a été lancé ce mardi 6 novembre 2018 va durer 3 semaines et il permettra de désarmer les combattants du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination. Pour le président du DDR, la présence des responsables des différents mouvements à la cérémonie leur offre l'heureuse occasion de lancer le processus. Zahabi Oud Sidi Mohamed, président du DDR.
Ce premier segment aujourd'hui, c'est le lancement officiel qui a une très grande signification parce qu'il y a tous les membres des mouvements signataires de l'accord qui sont là, qui cautionnent ce processus par leur présence ici. Donc nous lançons le processus.
La représentante du secrétaire général des Nations Unies au Mali a martelé que malgré le retard accusé dans le processus, l'espoir est encore permis. Madame Baranga Garassaboué, représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Ce moment est historique. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la volonté des Maliens et de toutes les parties maliennes de lancer ce processus de DDR accéléré et d'intégration dans les forces de défense et de sécurité. Cela a pris du temps, certes, mais il faut toujours agir au bon moment. La construction de la paix n'est pas un travail facile et vous avez effectué un grand pas en avant aujourd'hui. C'est le début de la création d'une nouvelle armée.
Le ministre de la Cohésion sociale a tenu à rassurer les différents mouvements. Lassana Bouaré, ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale.
Tous les problèmes seront abordés, traités avec équité, avec des solutions transparentes et dans un cadre de dialogue toujours renouvelé. Pour ce qui concerne l'État au nom duquel je parle ici, il prend l'engagement de faire face dans toute la mesure de ses possibilités à tous les défis liés à la mise en œuvre de l'accord, simplement parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays.
À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à Ag Abbas Ag Antalla, membre de la CEMA. Nous l'écoutons.
Pour nous, c'est dit tout, parce que c'est un commencement des processus qu'on a des années et des années. Aujourd'hui, le processus est déclenché, je pense. Nous tous, il faut qu'on soit sincère pour aboutir à l'objectif attendu.
Il faut rappeler que le processus de DDR comprend 12 étapes certifiées par les différentes parties. Il va de l'identification du combattant à la remise de kit en passant par la visite médicale et le test militaire. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, les candidats de l'opposition à la présidentielle dénoncent l'usage des moyens et du personnel de l'État dans l'équipe de campagne du candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadary. Eddy Issango a joint à Kinshasa le candidat Martin Fayoulou.
Les institutions comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, les CESAC, même le CESAC, utiliser. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Maintenant, le membre de CESAC qui sont dans l'équipe de Ramazani, comment ils vont réglementer les passages à la télévision? Comment ils vont réglementer les choses par rapport à leur mission? Comment le faire? Vous avez les chefs, les officiers de l'armée et de la police, dont l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui... Lui, il est retraité, mais il est conseiller de M. Kabila. Et il est conseiller, on le met là, quelque part, on lui donne une fonction.
Vous parlez des institutions d'appui à la démocratie. Si ces gens démissionnaient, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la tenue des élections au 23 décembre?
Mais ces gens doivent savoir ce qu'ils veulent. De toutes les façons, les nommer, eux, qui sont en fonction là, maintenant, vous dit exactement ce qui se passe. C'est que depuis longtemps, ces gens-là sont pour les Kabila. Donc tous leurs ajustements, tout ce qu'ils faisaient dans l'exercice de leurs fonctions, ils les faisaient en fonction des intérêts de M. Kabila. Et ça, maintenant, on a découvert le poteau rose. Donc quand on disait que toutes ces institutions sont inféodées, la CENI est inféodée, mais Il pouvait aussi nommer les membres de la CENI, mais simplement parce que les membres de la CENI sont déjà là, dedans, parce qu'ils travaillent pour ces candidats.
À ce jour, vous n'avez toujours pas choisi un candidat commun, donc on vous accuse de ne pas être prêt.
Écoutez, nous, nous sommes prêts. Les gens qui ne sont pas prêts, et vous le voyez, tous les candidats de notre côté ont présenté leur programme pour dire que nous sommes prêts. Nous avons déjà présenté les programmes est ficelé et tout ça. Nous sommes dans l'étape de l'élaboration du programme commun. Ça, l'équipe a déjà travaillé, on n'a aucun souci pour ça. Mais maintenant, le FCC, il vous donne la liste des membres de l'équipe de propagande du candidat Chadari. Mais maintenant, ils se rébiffent. Ils disent que non, la liste qu'on a donnée, fait dans la précipitation, on n'a pas consulté les gens. Maintenant, on va défaire la liste. Ça vous dit qu'ils ne sont pas prêts.
C'était Martin Fayoulou, candidat de la dynamique de l'opposition en République démocratique du Congo.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Direction Ouagadougou, où une association de près d'une cinquantaine de jeunes s'est donnée pour mission de réguler la circulation. L'intention de cette jeunesse volontaire est de contribuer à réduire les accidents dans la capitale burkinabé. Notre correspondant Lamine Traoré s'est rendu sur place pour les voir travailler.
Ouagadougou, carrefour du quartier Katria, l'un des six grands carrefours où est implantée l'association Faso One Village. Un regroupement de près d'une cinquantaine de jeunes, tous mobilisés pour réguler la circulation. Ousmane Sawadogo est le président de l'association Faso One Village.
Nous avons créé l'association pour réguler la circulation afin d'empêcher, pouvoir éviter qu'il n'y ait pas d'accident. Prévenir les accidents, faire en sorte qu'on puisse éviter dans les différents carrefours, là où il y a les feux. Et c'est là-bas qu'il y a les cas malheureux. Là. C'est pour cela que nous avons créé l'association. On travaille beaucoup. C'est-à-dire, surtout ceux qui sont en moto, ne respectent pas. Ils viennent le soir. Chacun s'arrête comme ils veulent. Et nous, nous essayons de réglementer à notre façon, hein, dans le texte qui dit là, pour que les gens puissent s'adapter à ça.
Ces jeunes se répartissent par groupe de 5, par carrefour. Mais ici, au grand carrefour de Katria, où le risque d'accident est élevé, ils sont 16. Leur travail est bien apprécié par les usagers de la circulation.
J'ai l'habitude de passer par là. En tout cas, on les voit, surtout quand il y a les délestages. On ne pouvait même pas passer par là, mais bon, avec leur travail, on rend grâce à Dieu.
Le travail, il n'y a pas de dérangement, ça va. Chez moi, en tout cas, ça va. Bon, les gens ne sont pas les mêmes. Les gens qui voient ça, même ça les emmerde. Oh, pourtant, bon, c'est bon.
Les efforts de l'association Faso One Village sont salués par la police municipale, également engagée dans la régulation de la circulation routière. Adama Pantamba est le chargé de communication de la police municipale de Ouagadougou.
Ce que M. Ousmane Sawadogo, à travers bien sûr son association One Village, fait pour la population de la ville de Ouagadougou est à saluer à sa juste valeur. Et d'ailleurs, nous encourageons d'autres citoyens qui peuvent prendre des initiatives dans d'autres domaines de la vie de le faire, car ça ne peut que contribuer au bonheur, bien sûr, de la population de la ville de Ouagadougou. Nous faisons ce que nous appelons les statistiques en matière accidentogène de la ville de Ouagadougou. Depuis que M. Sawadogo, avec son association à ce carrefour là, nous avons constaté que alors le nombre des accidents à ce carrefour a drastiquement baissé, ce qui veut dire que son action, bien sûr, n'est pas vaine.
L'association, à travers son action, a déjà remporté des trophées et distinctions pour continuer à mieux faire. Selon la police municipale, plus de 6500 accidents de la circulation routière ont été enregistrés à Ouagadougou en 2017. Ces accidents ont impliqué plus de 7000 personnes et fait près de 100 morts. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnou. À la console, Nelson Lopez. À la présentation, Nathalie Barge. On se retrouve tout de suite pour un rappel des titres.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.